Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La fête de Corpus Christi, du corps et du sang du Seigneur, a été instituée pour que nous ouvrions les yeux, que nous nous rendions compte du bonheur, de la joie que nous avons de savoir le Seigneur parmi nous dans la réalité substantielle de sa présence. Nous fêtons l'Eucharistie, son institution au Jeudi Saint, et cette fête-ci nous est donnée plutôt pour nous concentrer sur la présence du Seigneur. La présence du Seigneur qui n'a rien de quelque chose de caché, parce qu'il l'a annoncé très clairement, vous venez d'entendre l'évangile de Saint Jean. C'est donc la réalité de sa présence qui nous est donnée dans l'Eucharistie. Il faut nous interroger sur cette réalité pour ensuite voir comment nous pouvons vivre avec cette réalité. Voyons d'abord la réalité de la présence du Christ dans l'Eucharistie. Une présence réelle, incarnée, une présence réelle, nécessaire. Elle est incarnée. En quelque sorte, on ne peut pas dire mieux que l'Eucharistie, c'est la continuation dans le temps jusqu'à la fin du monde de l'incarnation du Christ. Ce qui était déjà complètement extraordinaire et difficilement compréhensible pour nous, c'est-à-dire que Dieu puisse se faire homme, puisse vraiment, que Jésus-Christ soit vraiment Dieu, mais vraiment homme, ou est vraiment homme, puisqu'il n'y a pas de contradiction en Dieu, eh bien, ce paradoxe, cette nouvelle incroyable, ce renversement de la révélation se poursuit, j'allais dire tout simplement, car en Dieu il n'y a pas de complication, dans l'Eucharistie. Vous le savez, les signes que nous posons ici, que le Seigneur a posés au Jeudi Saint, du pain, du vin, des paroles, sont le support de la réalité qui va se faire jour le lendemain, le Vendredi Saint, quand il meurt sur la croix. Voilà pourquoi il y a une croix sur l'autel. Le signe que nous répétons rend réel le sacrement qu'il a voulu parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est éternel, parce qu'il n'est plus limité par le temps et l'espace, et qu'à travers les signes que nous répétons fidèlement, par obéissance depuis 2000 ans, même si les formes en changent, si la langue peut en changer, si les chants peuvent changer, ce qui reste substantiellement de ce signe, le pain, le vin, des paroles, la présence du Christ qui se redonne à chaque fois, comme elle s'est donnée dans ses 33 ans sur terre, se redonne partout dans le monde par l'Eucharistie. C'est une présence spirituelle. Je dois vous le dire, mais j'ai peur toujours de le dire, car nous, pauvres modernes que nous sommes, quand nous entendons spirituel, nous avons un peu l'intention de glisser de spirituel à évanescent, à pas trop réel. C'est tout l'inverse, vous le savez bien, vous qui venez vivre de l'Eucharistie, votre communion spirituelle, la venue spirituelle du Christ, est donc une réalité. Comment ne pas comprendre que ce qui est spirituel, c'est ce qui préside à la réalité même matérielle des choses. S'il n'y avait pas un esprit qui avait créé cet embon, il ne serait qu'un bois informe. S'il n'y avait pas un esprit qui avait présidé à la vie même naturelle des arbres, il ne serait qu'un tas informe. S'il n'y avait pas un esprit qui présidait à notre être, nous serions ce que nous serons quand quittera notre âme, un tas informe de cellules. Oui, nous sommes informés spirituellement, et quand nous communions, c'est un acte spirituel que nous faisons, et donc un acte éminemment réel, jusque dans la matérialité de celui-ci où nous recevons la réalité de la présence du Christ. Voilà pourquoi cela nous a manqué, cette présence nécessaire que le Seigneur a voulu, car c'est la meilleure raison de la célébration de l'Eucharistie, c'est qu'il l'a instituée, et qu'il l'a instituée comme le moyen de nous donner sa chair. Deuxième étape difficile de notre compréhension, nous aussi, comme les Juifs qui entendent ce discours, ils trouvent ça bien étrange. Le Seigneur aurait pu nous dire qu'il restait parmi nous par son souvenir. C'est ce qu'il a fait aussi, il a laissé ses apôtres transmettre les souvenirs de sa présence, ce qu'il avait dit et enseigné, ainsi nous le savons. C'est un mode de présence, évidemment. Il aurait pu aussi vouloir que le seul rite que nous posons, car il y a des rites de toute nature, religieux, non religieux, dans tous les siècles, dans toutes les contrées du monde. Il aurait pu se contenter, s'il avait voulu, que nous rappelions sa présence par des gestes. Mais il a voulu qu'à travers ces gestes, à travers cette mémoire humaine, à travers cette fidélité, ça soit lui qui vienne vraiment et nous donne sa propre vie, sa chair. Saint Jean n'y va pas par quatre chemins. Le Seigneur a été d'une clarté insondable. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Cette nécessité que nous avons de passer par le don qu'il nous a fait, cette nécessité que nous avons de vivre en lui par l'Eucharistie, nous l'avons ressentie durant ces temps de manque où nous pouvions toujours prier chez nous, nous pouvions toujours lire l'Écriture, nous pouvions toujours prier les uns pour les autres, mais voilà, nous ne pouvions plus atteindre à la substantielle présence du Christ dans l'Eucharistie qui a dû nous manquer et creuser en nous un désir, un puits pour mettre le Seigneur qui se donne maintenant. Oui, parmi les nombreuses présences du Christ, quand deux ou trois d'entre vous sont là et qu'ils prient, je suis là au milieu d'eux, cette parole est vraie tout aussi, mais cette présence-là n'est pas la même. Je peux me rendre présent à vous en pensant à vous, je peux me rendre présent en vous téléphonant, je peux me rendre présent en vous écrivant, je peux me rendre présent en venant réellement parmi vous. Voilà la différence de la présence du Christ dans l'Eucharistie qui nous est donnée. Ce discours est difficile. Juste après ce passage, d'aucuns vont partir. C'est trop dur à comprendre. C'est trop incroyable. Le cadeau est trop gros. Et le Seigneur ne va pas tenter de retenir ceux qui partiront. N'ayez pas peur d'annoncer vous aussi la réalité radicale de la présence du Christ. À ceux qui partiront, le Seigneur ne dira rien. Il se tournera vers les siens, vers ses apôtres, et leur dira « Et vous, est-ce que vous voulez partir vous aussi ?» Ayons la foi de Pierre qui répondra « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Voilà pour la réalité de cette présence, elle n'est pas plus explicable, elle n'est qu'approchable, elle n'est qu'expérientielle. Dieu se donne, à travers les signes qu'il a établis, la réalité de sa présence se recommunique à nous. Alors cette présence, il nous faut vivre avec elle, c'est ça qui nous est donné. Je regarde juste les deux actions essentielles qui nous placent face à l'Eucharistie, la communion et l'adoration. Cette communion dont j'ai déjà parlé, c'est une présentation de moi-même à Dieu. Bien sûr, c'est moi qui reçois Dieu chez moi, c'est moi qui reçois Dieu en moi, mais combien il me dépasse infiniment, puisqu'il est Dieu, lui qui, sans jamais se diviser, se rend présent partout, lui qui, sans jamais s'amoindrir, me donne sa force, il me donne de le confesser. Dès lors que je le veux, dès lors que mon âme est en paix avec le Seigneur, la confession est toujours proposée avant que de recevoir l'Eucharistie, quand notre cœur n'est pas en paix. Voilà que nous sommes prêts à faire un avec le Seigneur. Un, c'est-à-dire, la lecture nous l'a rappelé, saint Paul, toujours qui vise au plus intime. Oui, on peut s'unir parce qu'on est d'accord. On peut s'unir parce qu'on fait les mêmes gestes, on peut s'unir parce qu'on fréquente les mêmes lieux, tout cela peut être juste des chrétiens, mais notre vraie raison d'union dépasse infiniment tout cela. La vraie raison de notre union, c'est que dans un instant, nous allons communier du même corps, nous allons être incorporés dans le même Christ, nous ne formerons plus qu'un dans le Christ. Il doit nous peiner de ne pas pouvoir nous transmettre la paix qui vient de l'autel en ces temps où ces gestes ne nous sont pas encore permis, car il signifie alors notre, c'est une manière de signifier notre union profonde dans un seul corps. Pourtant parmi nous, nous n'avons pas tous le même âge, pas tous les mêmes idées, et peut-être même nous nous aimons pas tous d'un amour parfait. C'est pourtant une union profonde et réelle qui est la nôtre. Nous sommes du même corps. Ma main pourrait bien ne pas trop aimer mes pieds. C'est moi tout entier. C'est cette image que saint Paul utilise, que saint Jean utilise pour nous montrer que nous sommes vraiment plongés en une seule communion. L'adoration, l'autre geste essentiel, cette adoration que vous posez pendant la messe en regardant l'hostie s'élever, cette adoration que nous célébrerons juste après la messe en faisant une petite procession, elle sera modeste à la taille de notre assemblée, mais nous ferons le tour de ce cœur en suivant le Seigneur, cette habitude de faire des processions qui a été établie pour nous faire rendre compte que tout est à Dieu, cette bénédiction enfin que nous recevrons, comme l'archevêque de Paris en a l'habitude tous les ans du haut de Montmartre, bénir la ville qui finalement n'appartient qu'à Dieu et à qui nous ne souhaitons qu'une seule chose, c'est le bien, cette bénédiction qui vient de Dieu. Voilà comment nous pouvons faire, pauvrement, simplement, pour nous en remettre au Seigneur, vivre de lui, de la manière dont il a voulu que nous vivions, et nous rendre compte qu'il est vraiment parmi nous. Que le Seigneur éclaire chacune de nos communions. Je finirai en citant Mère Teresa, qui avait fait inscrire, et s'est toujours inscrit, dans toutes les sacristies de son institut, chez les frères ou les sœurs de la charité, cette phrase à l'intention du prêtre qui célèbre la messe sous le crucifix de la sacristie. Ô prêtre de Dieu, toi qui vas célébrer la messe, que cette messe soit comme ta première messe, comme ta dernière messe, comme ton unique messe. Eh bien, pour les fidèles que vous êtes, vous pouvez le dire de votre communion, que cette communion soit comme votre première communion, votre dernière communion, votre unique communion. Ainsi soit.